Naaman, le chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme important aux yeux de son seigneur. Il jouissait d'une grande considération, car c'est par lui que le seigneur avait donné la victoire à Aram. Mais cet homme, ce vaillant guerrier, était lépreux. Lors d'une expédition, des troupes araméennes avaient ramené captive du pays d'Israël une petite fille. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon maître allait chez le prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint dire à son seigneur, « La jeune fille d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi d'Aram dit, « Vas-y, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Avec cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre ? Constatez, je vous prie, qu'il me cherche querelle. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir chez moi, je te prie, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman s'irrita. Il s'en alla en disant « Je me disais, il sortira et se tiendra devant moi. Il invoquera le nom du Seigneur, son Dieu. Il agitera sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pouvais-je pas m'y laver pour devenir pur ?» Il repartit en fureur. Mais des serviteurs vinrent lui dire « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? À plus forte raison s'il te dit « Lave-toi et sois pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint comme celle d'un petit garçon. Il était pur. Il revint vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit « Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de ma part. » Élisée répondit « Par la vie du Seigneur, au service duquel je me tiens, je n'accepterai pas. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit « Dans ce cas, je te prie, qu'on me donne à moi, ton serviteur de la terre, la charge de 2 mulets, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur. » Que le Seigneur me pardonne cependant ceci. Quand mon Seigneur se rend à la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur mon bras, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Que le Seigneur me pardonne donc lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Alors il le quitta.
Alors je m'adresse peut-être pour cette question aux croyants, aux chrétiens parmi nous. Est-ce que vous avez tout compris de Dieu ? Est-ce que vous avez fait le tour ? Alors, bon, ça va, je pense que tout le monde répondrait non. Bien sûr, qui oserait dire le contraire ? Mais je crains que parfois, sans y prendre garde, nous puissions glisser vers l'idée que si on fait X, Dieu fera Y. On a notre petite liste de choses que Dieu attend de nous et qu'on attend de lui. On les fait, il les fait, le tour est joué. Et si jamais quelque chose n'arrive pas comme j'avais prévu, alors bien sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Seigneur, pourtant, j'avais appuyé sur la touche Enter. Comment se fait-il que je n'ai pas obtenu ceci ou cela ? Le texte que Christelle vient de nous lire est un des textes de la Bible qui nous rappelle que Dieu est libre et que ce n'est pas nous qui pouvons dicter sa conduite. Dieu prend des engagements, c'est vrai. Donc il n'agit pas de manière arbitraire, mais il est libre. Nous continuons et nous terminons en fait ce soir une petite série sur ce début du livre des rois et en particulier le ministère du prophète Élisée. Et ce soir, on va se poser une question clé, enfin une question. On va se poser tout simplement cette question. Qu'est-ce que ce texte nous dit de Dieu et de sa manière d'agir ? Qu'est-ce que ce texte nous dit de Dieu ? Et de sa manière d'agir. Et on va essayer d'y répondre avec trois idées qui ressortent de ce récit. Tout d'abord, Dieu ne se laisse pas impressionner, Dieu ne se laisse pas manipuler, Et enfin, Dieu ne se laisse pas enfermer. Donc Dieu ne se laisse pas impressionner tout d'abord. On a vu ces dernières semaines, pour ceux qui étaient là, puis pour les autres, je vous le dis, que Israël, à l'époque du prophète d'Élisée, est plongé dans une période particulièrement sombre, marquée par la misère matérielle, mais aussi par la misère spirituelle. Une grande partie de la population s'est détournée de Dieu et s'est tournée vers des idoles en tout genre, notamment celles des pays voisins. Mais dans ce désert spirituel, Dieu est encore présent. C'était l'idée forte du texte de la semaine dernière, de l'épisode qui précède en particulier. Dieu est présent et à cette époque-là, il agit en particulier par le ministère du prophète Élisée pour montrer qu'il a encore des projets pour son peuple. Mais l'épisode de ce soir nous introduit dans un contexte tout à fait différent par rapport aux épisodes qui précèdent. Le narrateur nous présente un homme, Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, c'est-à-dire la Syrie. Aram, c'était le nom utilisé à l'époque pour la Syrie. Et ce Naaman n'est pas n'importe qui, c'est un vaillant guerrier, nous dit le texte, un haut gradé donc dans l'armée syrienne. Et le verset 1 nous apprend que c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram, donc la Syrie. Alors on ne sait pas exactement de quelle victoire il s'agit, mais les versets suivants laissent entendre qu'il s'agit d'une victoire contre Israël, puisqu'il sera question d'une expédition syrienne au cours de laquelle une petite fille a été faite captive en Israël. Donc pour les premiers lecteurs israélites de ce texte, pour ceux qui découvrent cette histoire en premier lieu à l'époque, il y a un double choc. D'abord, de manière inattendue, on s'intéresse tout d'un coup à un général syrien, donc un étranger, et en plus, un ennemi d'Israël, un chef d'une armée ennemie. Puis il est dit en passant que Dieu a été à l'œuvre dans sa victoire, sous-entendu contre Israël. Alors il est vrai que l'Ancien Testament nous donne plusieurs exemples dans lesquels Dieu, dans sa souveraineté, exerce son jugement contre Israël lorsque son peuple lui avait désobéi, s'était éloigné de lui, exerce son jugement en permettant le succès d'un peuple ennemi. Et on peut penser que c'est ce que sous-entend ici le narrateur. En tout cas, Naaman est un homme de renom, mais il a une souffrance, et non des moindres, il est lépreux. Verset 1. Alors dans la traduction qu'on utilise, la NBS, le mot est mis entre guillemets, parce que en fait le mot qui est utilisé est un mot générique qui pouvait décrire diverses maladies de la peau et pas seulement la lèpre. Et ici, au vu des symptômes qui seront décrits plus loin dans le chapitre, au verset 27, il est possible que ce ne soit pas la lèpre au sens strict, mais une autre affection de la peau. À vrai dire, peu importe. Et on ne sait pas si Naaman a fait le tour des dermatos de Damas, mais en tout cas on voit qu'il souffre toujours et la maladie est suffisamment handicapante pour qu'une petite fille de sa maisonnée remarque sa souffrance. Alors le narrateur en passant nous présente cette petite fille et son histoire dramatique. Elle a été kidnappée lors d'une expédition syrienne plusieurs années auparavant. On peut supposer que ses parents ont été tués lors de cette expédition, ou en tout cas qu'ils étaient morts au moment où les soldats sont arrivés. En tout cas, cette jeune fille a vécu un drame terrible qu'on peut à peine imaginer. Elle a été emmenée en Syrie contre son gré et elle se trouve désormais donc en esclavage plus ou moins dans cette maison syrienne. Alors c'est vrai, le texte suggère que sa condition n'est pas trop mauvaise en Syrie. Elle semble attachée à son maître, elle a une certaine liberté de parole puisqu'elle peut suggérer à la femme de Naaman une solution, mais ça n'enlève rien, bien sûr, au drame qu'elle a vécu et qui jette aussi un peu une ombre sur l'ensemble de ce récit. Malgré son jeune âge, cette fillette se souvient que dans son pays natal, il y a un prophète, Élisée, qui accomplit parfois des miracles. Et donc, elle en parle à sa maîtresse, qui en parle à son mari, et ça va parvenir même aux oreilles du roi de Syrie. Et là, il y a une ironie que le narrateur nous présente, je pense, de manière tout à fait consciente. C'est sur la parole d'une petite fille, une jeune servante, que le roi de Syrie va envoyer toute une expédition diplomatique pour faire guérir son général. Apparemment, les dieux de la Syrie ne peuvent rien contre lui, pour lui, pardon, mais le dieu d'Israël envoie un signal par l'intermédiaire d'une petite fille, une jeune servante. Et donc, le grand général, sur la parole de cette petite fille, va se mettre en route pour aller en Israël. On suppose qu'il y a une sorte de paix froide entre les deux pays à ce moment-là. En fait, tout au long de ce récit, on remarque les limites des prétentions humaines. Les autorités syriennes n'ont aucun moyen d'aider Naaman pour le guérir, si ce n'est de l'envoyer dans un petit pays voisin. Imaginez que notre président de la République doive aller au Luxembourg pour se faire soigner parce qu'on n'a pas de quoi s'occuper de lui. En France, ça serait un peu la honte. C'est rien contre le Luxembourg, c'est juste un très petit pays par rapport à la France. Et c'était un petit peu, il faut se représenter les choses un peu comme ça à l'époque. Alors le roi d'Israël, il est lui-même complètement impuissant. Il ne sait pas comment réagir, à part s'inquiéter d'un complot politique. Il dit, c'est pas possible. Ça m'étonnerait qu'ils nous envoient leur général comme ça. Ils doivent avoir une idée derrière la tête. Et finalement, c'est le prophète Élisée qui va lui-même prendre les devants et dire au roi, écoute, fais venir ce général chez moi. Mais les prétentions humaines font de la résistance. Parce que Naaman, il est prêt à la limite à quitter son pays avec toute cette petite délégation jusqu'à la petite maison d'Élisée quelque part en Israël, à Samarie. Mais quand ce prophète ne vient pas en personne pour le voir et lui envoie un intermédiaire pour lui dire d'aller se purifier dans le Jourdain, là c'est trop, faut pas exagérer quand même. Verset 11, Naaman s'irrita, il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira et se tiendra devant moi, il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, il agitera sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. » Déjà qu'il doit se déplacer dans ce bled perdu pour aller chercher un obscur prophète. Lui, le grand général syrien, si en plus ce prophète ne daigne pas venir en personne et lui fournir la prestation demandée, on marche sur la tête, c'est trop. Mais précisément, Dieu se plaît à renverser les prétentions humaines. Et on le voit à de multiples reprises dans la Bible. Naaman a dû apprendre l'humilité. Et c'est après avoir emprunté ce chemin d'humilité qu'il rencontre vraiment le Dieu d'Israël et qui va trouver la délivrance auprès de lui. Et c'est un bon rappel pour nous que nous n'impressionnons pas Dieu. Dieu peut se réjouir de nous et de notre vie, et nous l'espérons, mais nous ne l'impressionnons pas. Face au Dieu de l'univers, ces choses dans lesquelles parfois nous pouvons nous draper et qui font notre fierté, peut-être pour certains le métier, le statut social, les moyens financiers, peut-être pour d'autres l'apparence physique, peut-être un rôle dans l'Église même. Tout ça, ça ne l'impressionne pas. Il a créé l'univers, lui. Donc ce ne sont pas nos petits exploits réels ou supposés qui vont attirer son attention. Et quand Dieu prend l'initiative d'entrer en relation avec des hommes, des femmes, des enfants, il ne le fait pas comme un chasseur de têtes qui nous appellerait un jour en disant « Cher Intel, j'ai lu votre CV qui a retenu toute mon attention. Est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Ça ne se passe pas du tout comme ça avec Dieu. L'évangile, c'est la découverte d'un Dieu souverain qui nous offre sa grâce librement. Et c'est une découverte qui nous libère à notre tour. L'évangile nous libère d'un besoin d'impressionner Dieu, peut-être un besoin indirect d'impressionner Dieu en essayant de marquer le monde par nos œuvres, d'être quelqu'un qui va changer l'histoire en quelque sorte, au moins à petite échelle. L'évangile nous libère de cette pression que nous pouvons ressentir et du besoin peut-être plus pressant encore d'impressionner notre prochain. Si nous avons reçu par grâce l'amour inconditionnel de Dieu, comment pourrions-nous encore nous démener pour essayer de gagner l'amour ou le respect des autres ? Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas avoir de l'ambition ou faire des choses qui ont du sens. Mais comment pourrions-nous nous démener pour essayer de gagner l'amour ou le respect des autres si nous savons que nous sommes aimés par le Dieu Tout-Puissant, par sa grâce ? Et Jésus donc nous invite à suivre un bien meilleur chemin, celui d'aimer Dieu de toute notre force, nous dit-il, et aimer notre prochain comme nous-mêmes, choisir d'aimer notre prochain, sans attendre son admiration ou même son amour. Donc arrêtons de jouer à la comédie et cherchons à trouver une joie nouvelle dans une vie d'humilité. Naaman, on voit qu'il a du mal au début, mais il faut reconnaître qu'il a accepté tout de même de se mettre à l'école de l'humilité. Il a accepté d'écouter la fillette. Il a accepté d'aller en Israël. Il a accepté d'aller chez le prophète Élisée. Et même finalement de suivre l'ordonnance prophétique du prophète. Un bain dans le Jourdain à appliquer cette fois. Il accepte de le faire. Et on découvre sa magnifique confession de foi au verset 15. « Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » C'est frappant de voir que c'est l'humilité et l'expérience de la grâce de Dieu, sans condition, qui ont conduit Naaman à la foi. Intéressant de noter aussi dans notre récit que c'est d'abord une petite servante au verset 2 et 3. Et puis encore, à nouveau, ce sont des serviteurs au verset 13 qui vont convaincre Naaman de s'abaisser pour trouver le secours auprès de Dieu. Pourquoi c'est intéressant ? Peut-être que c'était des personnes habituées à l'humilité, habituées à servir, qui ne se faisaient pas d'illusions sur leur carrure. Et sans doute plus lucide sur la réalité derrière les apparences des autres aussi. Et au-delà du grand général, elles ont vu l'homme, ces personnes qui avaient besoin du secours de Dieu. Et ça m'amène à cette question. Si un Naaman devait entrer dans notre église, pas forcément quelqu'un qui a une maladie, mais ça peut être le cas aussi, mais quelqu'un qui cherche Dieu, mais qui est encore aveuglé par les prétentions de ce monde, plein de tentatives en tout cas de trouver sa confiance en lui-même ou elle-même. Trouvera-t-elle dans cette église, par exemple, des hommes et des femmes qui ont renoncé à ces faux-semblants et qui vivent selon ce chemin d'humilité que Jésus-Christ a tracé pour nous? Ou bien est-ce qu'il trouvera des gens qui jouent encore la comédie? Dieu ne se laisse pas impressionner, il ne se laisse pas non plus manipuler. Ce sera notre deuxième point plus brièvement. Je me souviens d'une conversation avec un jeune homme il y a plusieurs années, qui me disait qu'il en voulait à Dieu parce que Dieu n'avait pas exaucé telle requête particulière. Il estimait que Dieu aurait dû quand même être bien content de ses années de fidélité dans la vie chrétienne. Et je me souviens de cette phrase, « J'ai beaucoup fait pour lui, pour Dieu, il pourrait quand même faire ceci pour moi. » Alors, ça serait facile de dire ça en me moquant un peu ou en m'indignant d'une telle attitude. Mais je dois avouer que parfois, peut-être un peu plus subtilement, mais parfois je vois chez moi la même tendance. Il est si facile de glisser vers l'idée que Dieu nous doit quand même certaines choses et qu'il n'est pas juste qu'il ne nous donne pas ce que nous voulons, quand nous le voulons, comme nous le voulons. On oublie au passage que Dieu nous a déjà donné plus que ce que nous aurions jamais pu imaginer en Jésus-Christ. On oublie qu'il a consenti à prendre la condition humaine. Il est venu jusqu'à nous. Il a subi l'infamie de la croix. Il a fait de nous sa demeure par le Saint-Esprit. Il nous invite à une relation personnelle et vivante de chaque instant avec lui. Il nous promet la résurrection et la vie éternelle. Et ce n'est pas encore assez. On veut encore plus. Naaman veut bien que Dieu intervienne, mais ça doit se passer comme lui, il le souhaite, à sa manière. Le prophète doit venir devant lui et lui montrer du respect déjà, hein, parce que quand même. Et puis ensuite, il doit invoquer le nom du Seigneur, agiter sa main sur l'endroit malade, faire une petite incantation, et basta, tout sera réglé. Naaman vient vers Dieu avec son problème, mais aussi avec la solution. Et parfois, nous faisons exactement pareil. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas pour vous. Seigneur, j'ai tel besoin, mais ne te fatigue pas pour trouver une solution, parce que je connais la solution. Je sais ce qu'il me faut. Donc je te demande simplement d'envoyer l'ordre de virement spirituel. Signe ici, s'il te plaît. Mais ce n'est pas à Naaman de dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Quand Dieu sauve, il sauve souverainement, et pas parce qu'il se plie à nos demandes. De manière semblable, je me demande si nous avons tendance à rechercher le soutien et le secours de Dieu avec une liste de conditions. Je veux pouvoir compter sur toi, Seigneur, mais je te préviens, il y a des choses non négociables. Mon travail, mon train de vie, peut-être ma relation sentimentale avec telle personne, tel projet que j'ai à cœur, ça, tu n'y touches pas, s'il te plaît. Ça, on n'y touche pas. Ça va. Mais Dieu est Dieu. Nous invite à découvrir une relation authentique avec lui, qui commence par une lucidité sur le rôle de chacun. Il est Dieu et lui seul. Nous sommes ses bien-aimés. Nous sommes appelés à le connaître, à le servir, à trouver notre joie en lui. Et il agira dans nos vies comme il le souhaite. Pas toujours comme nous le souhaitons. Mais nous avons deux certitudes au moins. C'est qu'il fera toujours ce qui en définitive est meilleur pour nous. Sur le moment, parfois, c'est difficile de voir comment. Parfois, nous le voyons plus tard. Et on est surpris et émerveillé de voir ce que Dieu a fait y compris par des épreuves particulièrement difficiles, y compris malgré nos fautes, nos péchés. Dieu fera ce qui est ultimement meilleur. Et puis, autre certitude, c'est qu'il tiendra toujours ses promesses. Et dans la Bible, il y en a un paquet de promesses. Et en particulier celles que nous avons déjà mentionnées en Jésus-Christ. Dieu ne se laisse pas manipuler et il ne se laisse pas enfermer. C'est notre dernier point. Si on se met à la place des Israélites qui ont découvert ce récit en premier, il y a une question massive qui se pose tout de suite. J'ai déjà un peu évoqué au début. Comment comprendre que Dieu soit prêt à guérir un homme qui non seulement est un païen, en tout cas au début, mais même un ennemi d'Israël, un ennemi du peuple avec lequel Dieu a conclu une alliance, avec lequel il est entré en relation. Dans l'Ancien Testament, en fait, on a de nombreuses indications que Dieu, dans ses projets de délivrance, de rédemption, ne compte pas se limiter à Israël. Il a des projets pour la terre entière. Et de même que dimanche dernier, on a parlé de flash de grâce que Dieu donne dans une situation difficile. Et bien ici, on a un flash de grâce de Dieu à l'égard d'un non-juif. On aurait pu penser que Dieu, dans cette période de désert spirituel en Israël, il se serait d'abord occupé de tous les juifs qui s'étaient détournés de lui pour adorer les idoles. Mais ici, il choisit d'intervenir dans la vie d'un général ennemi. La Bible nous montre que Dieu aime les surprises. Il aime les renversements. En même temps, il ne se renie jamais. Bien au contraire, il fait ce qu'il avait promis de faire. Dès le livre de la Genèse, Dieu annonce à Abraham qu'il va bénir toutes les nations par lui. On a eu un message de Ryan à ce sujet il y a quelques semaines. À bien des reprises dans l'Ancien Testament, ce projet pour toutes les nations est rappelé. Et le Nouveau Testament va révéler le plein accomplissement de ce projet et montre que là où les hommes mettent des barrières et voient des incompatibilités, eh bien Dieu, lui, il ne se laisse pas enfermer. Pour nous qui sommes chrétiens, nous devons nous demander si nous sommes prêts à croire que personne n'est trop éloigné pour que Dieu intervienne. Est-ce que nous sommes prêts à croire que ces personnes qui aujourd'hui nous semblent si loin de la foi pourraient être demain ses disciples ? À ce sujet, une chose qui est intéressante de noter dans ce texte, c'est à la fois la fermeté et la patience de Dieu. Dieu ne s'est pas adapté à la vision du monde de Naaman. Il l'a invité à changer de vision du monde pour venir à lui. Dieu n'est pas ici un Dieu pluraliste qui dirait « Non, mais Naaman, t'inquiète pas, tant que tu es sincère, tu peux croire ce que tu veux à propos de moi. Tu peux m'adorer comme tu veux. Je suis tolérant, il n'y a pas de problème. » Non, il se révèle à Naaman comme le Dieu d'Israël et comme le seul vrai Dieu. Et Naaman va être amené à reconnaître cette vérité. Mais dans le même temps, Dieu fait preuve de douceur et de patience, de manière tout à fait frappante. Et on voit ça à la fin du texte, versets 18 et 19. Naaman demande à Élisée la permission de continuer à accompagner son maître dans un temple païen, tout en adorant que Dieu pour sa part. Et là, on s'attend à quoi là ? On s'attend à ce qu'Élisée le reprenne et dise « Et puis quoi encore ? T'as pas appris ta leçon ? T'as plus rien à faire dans le temple d'une idole. C'est vraiment ce qu'on attend. » Et la réponse d'Élisée nous surprend. Va en paix. Alors, il ne faudrait pas tirer les mauvaises conclusions de cette parole en pensant que Dieu accepte toutes sortes de compromis entre notre ancienne vie et notre vie nouvelle en Jésus-Christ. D'abord, on constate que l'attitude de Naaman a profondément changé. Il ne revendique rien. Il implore la compassion de Dieu dans sa situation. Et je pense qu'il faut souligner qu'Élisée ne dit pas « Pas de problème, Dieu est un Dieu large et tolérant, fais ce que tu veux. » Il lui dit « Va en paix. » On est en droit de penser, peut-être, que Dieu a agi plus tard pour que Naaman n'ait plus à entrer dans ce temple païen. Mais il a décidé d'être patient et bienveillant. Sans doute faut-il prendre en compte aussi le fait que Dieu, à cette époque-là, n'agit pas encore à grande échelle dans le monde païen. Il le fera plusieurs siècles plus tard, lorsque Jésus-Christ enverra ses disciples avec cette mission faite de toutes les nations, mes disciples. Donc il faut être prudent dans l'application de ces deux versets. Mais on peut tout de même, je crois, y voir un rappel de la patience de Dieu. Et ça peut nous faire réfléchir à ceux parmi nous qui sommes chrétiens et engagés dans l'Église, à notre manière d'accueillir des personnes qui découvrent peut-être la foi, qui viennent peut-être de rencontrer le Seigneur. d'autres qui sont encore en chemin. En pensant à ceux qui sont récemment devenus chrétiens, tout ne va pas devenir évident tout de suite. Il y a certains propos et même certaines actions qui pourront nous gêner, voire nous choquer, pour nous qui sommes dans la foi depuis plus longtemps. L'inverse peut être vrai aussi d'ailleurs. Ceux qui arrivent dans l'Église peuvent être parfois choqués par certaines choses, à juste titre ou pas. Il ne s'agit pas donc de tout accepter, bien sûr. Il ne s'agit pas de renoncer à enseigner ce que dit la Bible, évidemment que non. Mais de considérer que Dieu a été infiniment patient envers chacun d'entre nous. Et il y a sans doute encore, pour reprendre le langage de Jésus, des bouts de poutre dans nos yeux que nous devrions enlever avant de voir les éventuelles pailles dans les yeux de nos frères et sœurs. Maintenant, pour ceux d'entre nous ce soir qui sont encore à la recherche de Dieu, je vous encourage à vous demander si, comme Naaman, vous pourriez être libéré des faux semblants de ce monde, à la fois des faux dieux puis des fausses prétentions, et découvrir le Dieu qui est souverain sur l'histoire et souverain sur votre histoire. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'essayer de prouver que vous êtes votre propre Dieu, pour découvrir le véritable Dieu de votre vie, le Dieu d'Élisée et Naaman, le Dieu qui nous a envoyé Jésus-Christ, qui est le Dieu des belles surprises et qui vous invite à vous laisser surprendre par lui. Amen.